so mad at people. Politicians, at this time, I think you better keep your distance.
Dans l'enveloppe, le nom d'une ville.
Cette semaine, retrouvez Jack à Kinshasa.
C'est dingue d'être là.
Vous écoutez RFI, les 13h à Paris, 11h en temps universel. RFI Midi vous est présenté par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde, 2h30 ensemble avec nos correspondants, nos envoyés spéciaux sur tous les continents pour parler aujourd'hui lundi 6 juillet d'un tir de missile chinois qui fait beaucoup réagir. Missile stratégique de longue portée lancé d'un sous-marin à propulsion nucléaire dans le Pacifique à un moment où Pékin accentue la pression sur Taïwan, après aussi des exercices militaires américains et japonais dans la région. On essaiera de mieux comprendre ce contexte très tendu avec notre invité dans un peu plus d'une heure. Beaucoup de réactions aussi après que la FIFA a cédé à un nouveau caprice de Donald Trump en annulant un carton rouge contre le meilleur buteur américain. Il sera donc sur le terrain ce soir face à la Belgique en 8e de finale de la Coupe du Monde. Incompréhensible, dit le gouvernement belge. Pour l'UEFA, l'instance du foot européen, la FIFA a franchi une ligne rouge. C'est inédit. Et du côté des supporters américains, on ne s'embarrasse pas trop de scrupules. L'essentiel pour eux, c'est que Follarine Balogun joue. Tout à l'heure, vous les entendrez dans un instant dans le journal. Et on y reviendra plus longuement juste après 13h, temps universel.
RFI Midi.
Au sommaire également, une aide européenne pour aider la France à lutter contre les feux de forêt dans le sud. Conséquence de deux vagues de chaleur survenues en moins d'un mois. Détail dans une demi-heure. L'Union européenne, elle mobilise des bombardiers d'eau, mais elle continue de défaire petit à petit les textes qui protègent l'environnement au profit de grandes entreprises. On vous en dit plus dans un quart d'heure. On parlera aussi des funérailles de l'ayatollah Khamenei qui se poursuivent en Iran. Témoignage dans un instant. On évoquera la situation au Mali après de nouvelles attaques de djihadistes du JNIM dans Afrique Midi à midi et demi, temps universel. Et puis on vous présentera une nouvelle émission de la musique, beaucoup de musique à découvrir dans moins d'une heure maintenant et surtout ce soir à 22h10, temps universel. Voilà, vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, le journal. Bonjour Karine Bellicha.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Le cortège funèbre de l'ayatollah Ali Khamenei s'est mis en route dans les rues de Téhéran.
Troisième jour des obsèques nationales du dirigeant iranien, tué dans des bombardements israélo-américains le 28 février dernier. La procession doit durer plus de 10 heures dans la capitale, conçue comme une démonstration de force du régime. Les autorités attendent des millions de personnes. L'occasion pour l'État de porter le récit du soutien populaire à la République islamique et de l'unité du peuple contre l'ennemi extérieur. Parmi la foule présente sur les lieux se trouvent même des femmes non voilées qui affirment être opposantes au régime, mais avant tout patriotes. De Paris, Oriane Verdier a joint une jeune iranienne qui souhaite garder l'anonymat. Cette dernière dénonce les manipulations d'un régime à la puissance inimaginable.
Tout ça, c'est de la propagande. Ces femmes qui sont sans hijab aujourd'hui et qui l'étaient pendant la guerre, nous les appelons les parastou, des femmes qui sont payées très cher par le régime pour qu'elles fassent ce qu'ils veulent. Ils ont tué beaucoup de gens à cause du hijab, mais aujourd'hui, ils veulent montrer que tout va bien à l'intérieur du pays et que même ces personnes qui ne respectent pas les règles islamiques rejettent avant tout l'ennemi, les États-Unis. Mais c'est vrai qu'il y a 20% de personnes qui soutiennent la République islamique. Le régime se concentre uniquement sur eux et se fiche complètement des 65% ou 75% qui restent. Ils ont tué beaucoup de gens pendant la guerre et aujourd'hui encore, ils continuent. Chaque matin, je me réveille et je regarde les informations. Je découvre que deux nouvelles personnes ont été tuées tous les jours, des jeunes hommes de 18 ans, 19 ans, toujours moins de 25 ans.
years old. I don't know, less than 25 years old, unfortunately.
Témoignage de cette jeune Iranienne recueillie de Paris par Oriane Verdier. À noter qu'il n'y a toujours pas de trace de Mojtaba Khamenei qui a succédé à son père au poste de guide suprême. Il n'est toujours pas présent aux obsèques, contrairement à ses frères. Blessé dans les bombardements, il n'a pas été vu en public depuis sa nomination et ne s'exprime que par communiqué.
Le Hamas annonce avoir dissous ses instances dirigeantes dans la bande de Gaza.
Après presque 20 ans de pouvoir du mouvement islamiste dans l'enclave palestinienne, ce qui ouvre ainsi la voie à un comité technocratique chargé d'administrer le territoire, comme prévu par le Conseil de la paix mis en place par le président américain.
À propos du Liban à présent, le Premier ministre israélien affirmait hier à la chaîne américaine Fox News que certains villages chrétiens du Sud avaient demandé à être annexés à Israël.
Ils sont en quête, selon lui, de protection contre le Hezbollah. Benjamin Netanyahou a ajouté que plusieurs de ces villages chrétiens auraient fait appel à lui pour être débarrassés du mouvement pro-iranien. Paul Ralifé, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour tout le monde.
Vous êtes en direct de Beyrouth. Paul, les représentants de ces localités situées dans la zone tampon ont catégoriquement démenti ces informations.
Oui, effectivement Karine, les municipalités, les officiers de l'état civil et d'autres représentants des villages chrétiens frontaliers ont catégoriquement démenti les informations sur leur volonté d'être annexés par Israël et d'obtenir la nationalité israélienne. Les représentants de 15 localités chrétiennes situées dans la zone tampon de facto établie par Israël et par conséquent isolées depuis 4 mois du reste du Liban ont qualifié les propos de Benjamin Netanyahou de fabriqués et sans aucun lien avec la réalité. L'annonce du Premier ministre israélien a provoqué malaise et confusion au Liban, d'autant que certains partis politiques chrétiens plaident en faveur de la normalisation des relations avec Israël. Les élus et les notables de ces villages ont affirmé dans un communiqué conjoint que les allégations de Benjamin Netanyahou sont totalement infondées. Ils ont souligné que les habitants demeurent attachés à l'État libanais et à sa légitimité et qu'ils n'ont jamais dévié de cette position malgré les difficultés imposées par la guerre. Le texte insiste sur le fait que les habitants des villages chrétiens frontaliers sont fiers de leur appartenance nationale et profondément attachés au Liban comme patrie définitive. Ils ne conçoivent aucune alternative à leur identité libanaise et rejettent toute tentative de déformer leur position ou d'exploiter leur souffrance au service d'agendas qui leur sont étrangers.
Paul Ralifé en direct de Beyrouth, et j'ajoute que les bombardements israéliens se poursuivent. 4 personnes sont mortes dans le sud du Liban aujourd'hui.
Le président ukrainien espère des décisions fermes au sommet de l'OTAN contre la Russie après de nouveaux bombardements meurtriers contre son pays.
14 personnes sont décédées dans la région de Kiev. Les autorités dénoncent une nouvelle fois des frappes délibérées contre des immeubles résidentiels et des civils. L'Ukraine poursuit, elle, ses attaques en territoire russe et en Crimée annexée par Moscou, notamment à Sébastopol, privée désormais d'électricité. Cette ville de plus de 500 000 habitants servant de base à la flotte de la Russie de la mer Noire.
La capitale turque se prépare à accueillir le sommet de l'OTAN et Ankara est déjà placée en état de siège.
La totalité des grands axes sont fermés à la circulation. Le trafic est complètement paralysé. En attendant, les chefs d'État et les délégations des 32 pays de l'OTAN, les Européens se résignent peu à peu à la nouvelle donne au sein de l'Alliance Atlantique. Depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, avec les premières annonces américaines de retrait de troupes en Europe, tous se sont engagés à consacrer au moins 5% du PIB à leurs dépenses de sécurité d'ici 10 ans.
L'actualité en Europe, c'est aussi une nouvelle vague de chaleur.
Oui, une conséquence du réchauffement climatique du Portugal au Royaume-Uni jusqu'aux pays de l'Est en passant par l'Allemagne, la Suisse et la France. Dans l'Hexagone, 16 départements sont désormais placés en alerte canicule orange avec localement des températures attendues jusqu'à 40 degrés.
La France où deux streamers qui animaient la chaîne internet sur laquelle Jean Portmanov est mort en direct l'année dernière sont jugés devant le tribunal correctionnel de Nice.
Au cœur du procès, les violences en ligne qui illustre les dérives de certaines plateformes. Bonjour Sylvie Coffi.
Bonjour.
Le procès ne portera pas sur la mort de Jean Pormanov, 46 ans, de son vrai nom Raphaël Graven. L'autopsie ayant conclu à l'absence d'intervention d'un tiers dans ce décès.
Les deux hommes, Naruto et Safin, devront répondre notamment des faits de violence en réunion sur la personne de Jean Pormanov. Sous le feu de plusieurs caméras qui le filment sans interruption, on voit Jean Pormanov se faire insulter, humilier, frapper, tirer les cheveux. Il reçoit même des projectiles de paintball. Sur cette chaîne suivie par près de 200 000 personnes, le concept est simple. Il s'agit de rester le plus longtemps en direct. Les internautes participent, commentent les scènes et envoient des dons qui rythment la diffusion. Ce sont ces scènes de violence qui sont au cœur du procès. Après 12 jours de diffusion, le marathon approche les 300 heures de direct. Dans la nuit du 17 au 18 août 2025, le corps de Jean Pormanov est retrouvé en direct, inerte, sous un drap. Au-delà du sort judiciaire des deux streamers, Naruto et Safin, cette affaire pose une question inédite à la justice française. Où s'arrête le divertissement en direct et où commence la responsabilité pénale?
Sylvie Coffi, au Mondial, le match entre les États-Unis et la Belgique aura lieu dans quelques heures, mais il fait déjà beaucoup parler. La FIFA a franchi une ligne rouge selon l'instance européenne, l'UEFA, dénonçant une décision inédite, incompréhensible et injustifiable, car la FIFA a suspendu le carton rouge qui devait priver le meilleur buteur américain de cette rencontre. Énorme polémique, normalement privée de rencontre après un carton rouge reçu lors du précédent match. Folarin Balogun va finalement pouvoir jouer après un tour de passe-passe réglementaire de la FIFA. Une décision controversée prise après un coup de fil de Donald Trump qui plonge la sélection américaine dans une drôle d'ambiance à Seattle. Cédric De Oliveira.
C'est du jamais vu dans l'histoire du foot. Et pour le plus grand plaisir du sélectionneur de Team USA, Mauricio Pochettino, la FIFA a fait preuve de mansuétude à l'égard de Folarin Balogun.
On célèbre tous cette décision. On est tous d'accord sur le fait que c'était un carton rouge injuste.
Et pourtant, le carton rouge de Balogun en 16e de finale était justifié, mais la FIFA s'est appuyée sur l'article 27 de son code disciplinaire qui stipule qu'une sanction peut être suspendue intégralement ou partiellement, ce qui donne l'impression que l'instance peut agir comme bon lui semble. D'abord stupéfait, les supporters américains réunis à Seattle sont ravis, tout comme Marc.
Il va jouer et j'en suis ravi, je n'avais jamais vu ça avant. On va voir s'il va arriver à marquer à nouveau.
Mais alors pourquoi une telle décision? Pourquoi en faveur d'un des pays organisateurs? Selon certains médias américains, Donald Trump aurait décroché lui-même son téléphone pour que son ami, le président de la FIFA, Gianni Infantino, intervienne. Une hypothèse qui n'étonne personne dans ce bastion démocrate.
Peut-être qu'il l'a appelé, mais qu'il l'ait fait ou non, c'était un carton rouge injuste. Et il a marqué déjà lors des premiers matchs. Alors je pense que l'équipe est meilleure avec lui.
C'est une évidence. Balogun, 3 buts jusqu'à maintenant, est le meilleur buteur de Team USA sur cette Coupe du Monde. Mais quelle que soit sa performance face à la Belgique, sa présence pourrait créer une jurisprudence pour d'autres équipes que la FIFA aura bien du mal à contester.
Radio HDR.
Venez dans mon pyramide.
Le mix de toutes les cultures.
Soyez pas timide.
99.1 FM.
99.1 FM.
J'ai vu un chat faire du piano, un mec à poil dans son frigo, des potes avec un CAP platiste, devenir expert épidémiologiste. J'ai vu un russe qui avait trop bu, faire l'hélico avec ses attributs. J'ai vu un lama faire un selfie, complètement stone dans une boîte à Paris. Et j'ai vu Poutine surnommer un ours, les fesses de Kim cotées en bourse. Une théorie illuminati, selon laquelle Weinstein serait gentil. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien, et allez bien, on fait la fête. Ouh, waouh. J'ai vu le jaune revenir à la mode, mais perdre la vue, devenir une norme. J'ai vu une mamie fumer des bédos, une manif de pompiers maté à Poudlance à eau. J'ai vu des mecs parler d'un singe facteur, un top 10 des meilleurs dictateurs. Une affaire judiciaire dans le Gorafi, sans aucun lien avec Balkany. J'ai vu un dauphin en train de twerker, et Donald Trump se comparer à Hemingway. J'ai vu à Rouen s'élever très haut, un nuage de fumée toxique, mais pas trop. Oh bah si c'est pas trop ça va, alors ça veut dire qu'on va pas mourir. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien, et allez viens, on fait la fête. Ouh, waouh. J'ai vu un
pingouin qui portait des tongs. Un tuto pour soi fait comme Mao Tse-Tong. J'ai vu une méthode révolutionnaire qui pour 100 balles par mois te fait devenir millionnaire. J'ai vu un tank sur l'autoroute, Magic System revenir à chaque mois d'août. J'ai vu un robot avoir des droits dans un pays où les femmes n'en ont pas. Mais dans le fond tu sais, c'est peut-être un endroit sans foi ni loi, mais tu y trouveras tout plein de gens comme toi. Il y a des forums pour discuter, échanger, chatter et plus si affinité. Que tu sois cinéphile, capilla, vénophile, scoinopène, taxophile ou canaro, plasticophile, ouais ça existe. Dentiscalpiste ou philatéliste, apertophiliste, même philocordoniste, latrina papyrophile ou tyro ou zémiophile, obituarophile, même pélo. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien et allez bien, on fait la fête. Ouh, ah, ouh. Bienvenue au pays merveilleux de l'internet. Tu verras, on est bien et allez bien, on fait la fête. Ouh, ah, ouh, ah, ouh.
Always a catch, and when you're living through a blowback, wondering why you need places to hide. Keep one out to the sky, and when you're waiting for the blowback, get to the mark, watch out for the scar. Cause all you was thinking of blood in the world of the blowback. My lights on Madman, require to Batman. Step on over to Saddam, starring in the blowback. Invisible seas, invisible keys, the shit, but you ain't gonna try not to spin. Coming out welfare, and out welfare, and out of this shit, a hobby. Worst disposal, common gloves, or flicker the wrist. Sorry, justice, feel the kiss, it was fierce. Hollywood, Hollywood, takes from this.
Check on Mr. Parker, this a 8 months young in a year. you know. God took it from mobile, baby, down to the road. But I'll give you time, baby, to make you be who you want. To keep me smiling. If you're looking someone to play, they gotta pick yourself apart, cause not a little bit of boy. So baby, love is not the job, but love is not to talk on this. I ain't my job. Ain't I the biggest difference in your life? Yeah. Miss a lot of pop, but when I think of stop, a king is on top. Ain't it gotta keep a dumping to the very last drop of that? Ain't a dumping to the very last drop of that? Come in. Run, come up quick. Let's turn on funny chica. And we pick my heat to call me mama. Beautiful cuckoo, man. Get it, but you don't want a son. Call her Eatman's candy. Baby, you got the read around it. Ain't I big a dream, but got the read around it. Ain't I see you with this TV sometime.
Il faut se creuser la tête. Sauver la planète.
Simplifier, accélérer, ne plus bloquer. Voilà le credo affiché par le gouvernement avec la parution au journal officiel du 22 avril 2026 du décret 2026-32. Son objectif officiel est d'alléger les procédures contentieuses en matière environnementale pour les projets dits stratégiques et de réduire les délais de justice afin de ne pas freiner la transition écologique et la souveraineté économique. Bonne idée pour certains, mais pour d'autres, pas tout à fait. Pour en parler, cette semaine, je vous propose de rencontrer la présidente de FNE Occitanie, France Nature Environnement, et il s'agit de Cécile Argentin. Bonjour.
Bonjour.
On rappelle ce qu'est FNE, France Nature Environnement ?
Alors, France Nature Environnement est une association d'intérêt général au niveau national avec des déclinaisons dans les régions. Et donc, nous sommes FNE Occitanie Midi-Pyrénées à l'échelle de 8 départements, donc l'ouest de l'Occitanie. Et c'est le plus grand réseau d'associations au niveau national et qui est impliqué dans tous les départements et les commissions départementales.
Le FNE représente en général les associations de protection de la nature et de l'environnement dans tous les espaces de concertation avant des projets pour gérer l'agriculture au niveau de la préfecture, pour gérer la chasse, pour gérer tout un nombre de dossiers. Vous êtes très fort sur le terrain et c'est en général vous ou des associations que vous accompagnez qui mettent en justice des projets qui seraient écocides. Alors pourquoi la Fédération France Nature Environnement, au niveau national, ça dépasse finalement le régional, est impactée au premier chef par ce décret qui est censé permettre de faire avancer plus vite les projets dans la transition écologique ?
Alors nous sommes un mouvement qui marche avec la concertation, qui répond à toutes les enquêtes publiques, aux consultations publiques, qui sommes présents dans les commissions. Et donc il nous semble normal, nous, que la population soit à la fois informée et qu'on puisse aussi contribuer en tant que APNE, Association de protection naturelle de l'environnement, à des améliorations des projets pour qu'ils soient moins destructeurs, moins écocides. Et ce décret-là prive les associations, dont FNE, qui a un service juridique de juristes important, d'un certain nombre de possibilités de recours, mais pas seulement de recours, également tout simplement de pouvoir porter un jugement sur un arrêté préfectoral qui va ouvrir sur un projet. Donc c'est
C'est-à-dire que vous n'avez plus accès au dossier ?
Alors, on a accès aux dossiers sur les enquêtes publiques ou les consultations publiques. Simplement, de ces consultations publiques sortent des arrêtés préfectoraux pour lesquels aujourd'hui il ne sera pas possible pour un certain nombre de projets de faire ne serait-ce que des recours gracieux, c'est-à-dire qu'on demande des modifications d'un arrêté d'exploitation parce qu'il ne nous semble pas suffisamment conservateur par rapport au milieu ou par rapport aux impacts éventuels. Donc ces recours-là sont, ce recours gracieux est devenu impossible. Et par ailleurs, nous sommes privés, mais tous les citoyens sont à la même enseigne, des possibilités de recours en première instance dans tous les tribunaux administratifs. Donc pour résumer, tous les projets qui concernent les énergies renouvelables.
En fait, en gros, il s'agit d'un saut dans une espèce de flou juridique, c'est-à-dire que vous n'allez plus savoir vraiment comment agir, comment défendre les citoyens et la nature.
En fait, le seul objectif de ce décret, en fait, c'est d'appauvrir les associations en les obligeant à recourir non pas à leurs services juridiques en interne, mais à des avocats assez coûteux qui sont habilités à intervenir dans les cours administratives. Donc, en fait, c'est un moyen qui a déjà été mis en œuvre pour l'éolien il y a une dizaine d'années, de diminuer le plus possible les recours au tribunal administratif et donc les moyens de contestation, d'amélioration des dossiers. Donc c'est le seul et unique objectif. Il y a un grand risque à ça, c'est qu'on sait très bien qu'en diminuant les concertations, en diminuant les possibilités d'aménager, d'apporter des avenants, on risque pour certains dossiers d'arriver à une confrontation qui soit beaucoup plus musclée de la part des populations locales. Je donne un exemple, les DREAL le confirment.
Les DREAL, les directions régionales à l'environnement, je ne sais plus.
De l'environnement et du logement, que lorsqu'on fait une simple consultation publique, et beaucoup de cas maintenant passent en consultation publique, c'est-à-dire dématérialisée sur Internet, et non des enquêtes publiques qui supposent des enquêtes avec un commissaire enquêteur, eh bien les recours ensuite sont plus nombreux. Donc c'est un très mauvais calcul et c'est tout simplement un déni de démocratie environnementale qui pourtant aujourd'hui est tellement mise à mal.
Alors ce décret, j'ai lu aussi qu'il instaurait un délai de rigueur. Qu'est-ce que c'est ce délai de rigueur ?
Alors on va avoir aussi beaucoup moins de temps pour recourir au tribunal, c'est-à-dire qu'avant on avait une période très très étendue, donc c'est ça vraiment qui est très visé, c'est-à-dire qu'avant le recours gracieux, faute de réponse au bout d'un mois ou deux, on pouvait faire un recours dans les deux mois qui suivaient. Or là, en fait, tout est raccourci. Dès la publication sur le site internet de la préfecture, nous n'avons plus qu'un mois, je crois, pour déposer les éléments, un recours éventuel à la cour administrative, ce qui induit en fait de devoir, dès l'enquête publique, travailler avec cet esprit-là, puisque nous n'aurons jamais eu en amont une proposition d'arrêté préfectoral d'exploitation sur lequel nous pourrions proposer des améliorations, par exemple, ou faire des mises en garde. Donc on coupe complètement aujourd'hui les moyens de concertation, sachant que les enquêtes publiques sont en général des tartufferies, puisque les commissaires enquêteurs ne répondent pas aux questions, puisque même quand vous avez une opposition à 95% sur un projet, ça ne change strictement rien, et que les commissaires enquêteurs, globalement, ne donnent pas d'avis défavorable.
J'ai vu que ça ne s'appliquait pourtant qu'à 5 catégories de projets, les énergies décarbonées, donc l'éolien, le solaire, certainement l'hydroélectricité aussi, méthanisation, les transports, la souveraineté alimentaire, économique et enfin industrielle. Tous, on pourrait dire, alors peut-être les transports, ça dépend lesquels, ont quand même cet objectif de faire rentrer le pays dans une forme de transition et d'adaptation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Alors aujourd'hui, nous sommes encore à l'échelle nationale dans le tout aménagement routier, hein, qui est quand même pas du tout le bon exemple en termes de transition écologique, de décarbonation. Donc on a encore une forme de folie à construire des deux fois deux voies partout. Il y a des projets de contournement autour de Toulouse pour gagner une minute, des projets de contournement dans l'Aveyron, la N21 dans le 65, je ne vous